VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin, Gabi, Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 5 minutes, notre cours d'anglais. Mais juste avant, un résumé des principales nouvelles du monde. Présidentielle en Guinée, l'ex-premier ministre guinéen Sidya Touré, candidat au scrutin du 11 octobre, a annoncé le retrait de ses représentants des instances électorales pour ne pas cautionner ce processus. Le communiqué de son parti, l'UFR, fait suite à la demande d'annulation du premier tour par les 7 adversaires du président sortant Alpha Condé lors d'une conférence de presse ce lundi.
C'est lui dans l'Indialo, c'est voulu beaucoup plus précis et envisage même des manifestations de rue.
Nous avons le droit de manifester, on le fera. Il ne faut pas se cacher la figure. Lorsque nos droits sont violés, nous n'avons pas d'autre recours, il n'y a pas d'institutions qui peuvent constituer des recours crédibles. Nous allons exercer nos droits, tous nos droits, pour faire prévaloir nos droits.
Pas de déclaration commune au cours de cette conférence de presse, ouverte par le doyen de candidat, l'ancien Premier ministre Sidya Touré, mais fermée par Seluda Lendialo, chef de file de l'opposition, Conakry Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué ce qu'il appelle la conduite paisible de ce premier tour de l'élection présidentielle en Guinée et réitéré son appel au calme dans l'attente des résultats du scrutin. Burkina Faso, le colonel Sita Sangaré a été installé ce matin dans ses fonctions de nouveau directeur de la justice militaire. Deux principaux dossiers retiendront immédiatement son attention.
Nous avons le dossier Thomas Sankara, nous avons également le dossier relatif à la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso que des collaborateurs sont en train d'instruire et cela requiert certainement de la patience, également la compréhension de tout le monde.
Au Burundi, le gouvernement affirme que la situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l'étendue de la République, mais le ministre de la Sécurité publique a déploré la persistance des meurtres ciblés.
Alain-Guillaume Bougnoni recommande à la population de dénoncer les criminels et de fournir à la police toute information susceptible de faire avancer les dossiers. Il est à signaler que deux personnes ont également été tuées dimanche soir au nord de la capitale. Rappelons que le Burundi a retiré son agrément à l'ambassadeur de Belgique à Bujumbura suite à une dégradation de confiance entre les deux pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Deux soldats tunisiens ont été tués et 4 autres blessés aujourd'hui lors d'affrontements avec des djihadistes dans un massif montagneux du centre-ouest de la Tunisie. C'est ce qu'indique l'AFP citant le porte-parole du ministère tunisien de la Défense. Depuis la révolution de 2011, rappelle l'agence, la Tunisie fait face à une augmentation des attaques djihadistes, la plupart revendiquées par les mouvements liés à ACMI, qui ont coûté la vie à des dizaines de militaires, policiers et gendarmes. Le gouvernement non reconnu par la communauté internationale en Libye a rejeté la proposition du gouvernement d'union nationale mise sur la table par l'émissaire de l'ONU pour trouver une solution politique au conflit libyen.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont largué 50 tonnes de munitions pour armes légères aux rebelles du nord de la Syrie, a confié à la Voix de l'Amérique un responsable du Pentagone. Vendredi, les autorités américaines ont annoncé la fin des programmes d'entraînement de la rébellion modérée en Syrie et l'augmentation de leur soutien en matériel de combat à ces mêmes forces. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe demande à la Russie de cesser immédiatement ses attaques militaires ne visant pas le groupe État islamique ou d'autres organisations désignées par l'ONU comme des entités terroristes. En Israël, 4 nouvelles attaques au couteau ont été perpétrées aujourd'hui contre les policiers et les jeunes juifs. 3 des assaillants ont été tués par les tirs des forces de sécurité israéliennes. Ces 4 attaques portent à 19 le nombre d'agressions à l'arme blanche depuis le 3 octobre. Réagissant à cette vague de violence, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de vaincre le terrorisme. Nouveau bilan de la bousculade de Mina à la Mecque. Les 31 pays affectés, dont 22 en Afrique, ont enregistré au moins 1608 morts. Le premier bilan officiel, le 26 septembre, faisait état de 769 morts. Et sachez enfin que l'américano-britannique Angus Deaton, enseignant à l'université Princeton dans le New Jersey, a reçu aujourd'hui le prix Nobel de l'économie pour son analyse des questions liées à la consommation, la pauvreté et le bien-être social. Nouvelles du monde, Washington, chez Robin Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci à Gabi pour les 5 minutes de l'actualité dans le monde. Eric Manirakiza vous retrouve depuis le studio 10 de la Voix de l'Amérique. C'est dans votre rendez-vous quotidien, votre antenne libre, l'émission interactive. Nous parlons de la Guinée aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Georges Léonard Sagnon à la cabine technique et notre ingénieur McLean qui m'aide pour pouvoir conduire cette émission. Vous l'avez donc entendu, hier c'était les élections, la présidentielle en Guinée. Aujourd'hui il y a eu des réactions, l'opposition ne reconnaît pas les résultats qui vont être publiés. Aujourd'hui, il y a des peurs. Est-ce qu'on va encore retourner dans la violence? Il y a eu des contestations et l'on promet de manifester. On sait que les manifestations s'accompagnent toujours avec des violences. L'on a déjà vu en Afrique et en Guinée, ce n'est pas la première. Nous allons donc essayer de décortiquer toutes ces questions. Je suis en ligne avec Nema François Chérif, il est politologue, il est à Conakry. Bonsoir, monsieur Chérif.
Oui, bonsoir, la Voix de l'Amérique, une fois de plus encore.
Merci pour votre participation. Je suis également en ligne avec Sekou Nanasila, secrétaire administratif du bureau de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de Lambani. Bonsoir, Sila.
Bonsoir, monsieur.
Je suis également.
C'est un plaisir de participer dans votre émission.
Merci pour votre participation également. Je suis en ligne avec Zakaria Camara, c'est le correspondant de VOA Afrique à Conakry. Zakaria, bonsoir.
Bonsoir, Rika.
Oui, nous essayons également de joindre Youssouf Camara. Il est membre du bureau exécutif UFGD plutôt, et secrétaire national adjoint à l'implantation et à l'organisation du parti, membre du directoire chargé des équipes 2015. Camara, je veux commencer par toi. Quels sont les derniers développements?
Alors, l'instant du soir, vous l'avez dit, c'est la décision de 7 candidats adversaires d'Alpha Condé qui décident de ne pas reconnaître les résultats issus du scrutin du 11 octobre. Parmi eux, l'ancien préfet de ministre, Sylvia Touré, a donc décidé de retirer son parti du processus électoral. Dans un communiqué, le parti accuse la mouvance de triche dans ses fiefs, ou en tout cas, le parti semble être battu. Quelques heures avant, Sylvia Touré et six autres étaient devant la presse pour annoncer leur position sur le déroulement justement du scrutin du 11 octobre. Sauf que, alors dans cette communication, on a entendu Sylvie Dalain Diallo, le chef d'équipe de l'opposition, qui a clairement, disons, dit l'intention de l'opposition d'user de tous les moyens légaux, y compris les manifestations de rue. Mais on a également entendu la présidente de PEG, Parti des écologistes de Guinée, qui n'est pas allée dans le même sens que les autres. Elle a préféré lancer un appel au calme. Donc, je cite, je demande aux militants d'écouter les leaders, de ne pas descendre dans la rue et de laisser nous, les leaders, gérer la situation. Voilà, en gros, peut-être qu'il faut rappeler que, ensemble, globalement, les opérations de vote se sont déroulées comme vous l'avez constaté dans le calme.
Oui, il y avait justement une élection paisible, mais avec des anomalies. Est-ce que voudriez-vous rappeler à nos auditeurs quelles sont été les grandes anomalies observées dans ce scrutin?
Alors, d'autant parler d'irrégularité, d'autres anomalies qui ont pour nous disons, absence d'enveloppe sécurisée, pour nous également le retard dans l'ouverture des bureaux de vote, mais également pour nous des électeurs qui ont des cartes électeurs, mais qui ne retrouvent pas leur nom sur la ligne de démargement. Mais de nombreux observateurs ont connu ces anomalies sur le terrain, mais ils ont également annoncé, déclaré que ces anomalies la crédibilité du scrutin.
Oui, Zach, merci pour toutes ces précisions. Monsieur Silla, bonsoir.
Bonsoir
encore.
Monsieur.
Vous êtes encore là, oui. Vous avez suivi les déclarations de l'opposition dans sa diversité. Votre réaction, vous êtes de la mouvance.
Voilà. La première des choses qu'il faut saluer dans cette déclaration de l'opposition, c'est la responsabilité de la candidate Madame Dubaté. J'ignore son prénom et je m'en excuse. En tout cas, elle a montré que la femme a de la conscience et c'est franchement salutaire qu'elle se retrouve sur la scène politique. La responsabilité, je pense qu'à ce moment très crucial de la vie de notre jeune démocratie, devrait interpeller tous nos acteurs politiques. Malheureusement, nous avons toujours eu en face cette opposition guinéenne qui était convaincue depuis avant cette campagne électorale qu'elle allait perdre face à un président sortant qui a un bilan élogieux à son actif. Et voilà, les résultats ne sont même pas sortis des urnes déjà. Ils affichent clairement leur position au vu aussi de l'opinion nationale et internationale. En tout cas, nous ne sommes guère surpris de cette sortie de l'opposition. Encore une fois, ce que nous faisons, en tant que fils de la Guinée, nous les interpellons à revenir à de meilleurs sentiments. Le jeu démocratique est un jeu ouvert. Soit on gagne ou on perd. Les résultats provisoires ne sont même pas encore prononcés. Il y a des voies de recours légaux, je m'excuse, dans le pays. Je pense que ça ne sert à rien de créer la psychose inutilement. Nous sommes en démocratie, c'est la volonté du peuple qui va prévaloir et nul ne peut empêcher cette volonté de se réaliser. Je pense qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments. Reconnaître sa défaite dans une démocratie est une grandeur d'âme, est une vertu. On l'a vu dans d'autres pays où, franchement, les perdants reconnaissent la victoire du gagnant et la marche du pays vers son émergence continue. Donc c'est cet appel fraternel, cet appel de cœur que nous lançons à notre opposition. Aujourd'hui, il est clair qu'ils ont une partie de la population guinéenne derrière eux. La conquête du pouvoir politique, ce n'est pas en un seul jour. Et il faut essentiellement respecter le verdict des urnes si nous voulons respecter le peuple et tel
Monsieur
que
Silla,
par l'article 2 de notre Constitution.
Monsieur Silla, est-ce que vous auriez remarqué des irrégularités ou des anomalies au niveau de la mouvance?
Oui, nous avons bien sûr remarqué des anomalies et des irrégularités. Les observateurs, aujourd'hui, en République de Guinée, il y a plus de 10 000 observateurs nationaux et étrangers. Et du constat de tous ces observateurs, demain, les observateurs de l'Union européenne feront leur point de presse. Il y a des anomalies qui ont caractérisé le processus électoral, certes. Ne pas le reconnaître, c'est de mauvaise foi. Mais ces anomalies n'ont favorisé aucun parti en compétition. Ces anomalies ne peuvent pas mettre en cause la sincérité de ces votes-là. Donc, il n'y a pas de processus électoral parfait. Nous ne faisons pas l'avocat du diable. Il y a eu des anomalies, certes, mais ces anomalies ne peuvent pas mettre en cause, ne peuvent pas favoriser l'annulation de ces élections-là. Le peuple de Guinée s'est massivement mobilisé sur ce qui est important. Au fur et à mesure, les anomalies ont été signalées à l'organe qui est chargé, de par la Constitution et les lois électorales guinéennes, d'organiser les élections. Et au fur et à mesure, les anomalies ont été corrigées. Je pense que le peuple de Guinée, dans son écrasante majorité, s'est prononcé. Et franchement, l'expression du peuple de Guinée doit être respectée par toutes les forces politiques du pays.
Monsieur Silla, vous avez suivi ce qui s'est passé, ce que l'opposition a demandé. Beaucoup, même parmi les observateurs, ils disent que la CENI n'était pas apparemment prête pour conduire les opérations de vote vu les irrégularités observées hier.
Bon, les irrégularités, je l'ai entendu d'entrée de jeu. Il y en a eu.
par rapport à la capacité, enfin, au fait que la CENI était prête ou pas à organiser ces élections, n'est pas de mon ressort. La CENI a dit devant tout le monde qu'elle est prête. C'est une institution autonome. Elle ne dépend ni de la mouvance présidentielle, ni des partis de l'opposition. C'est la Constitution et les lois organiques qui l'ont créée et qui lui permettent d'avoir son autonomie. Encore une fois, la CENI, ce n'est pas la mouvance présidentielle, encore moins l'opposition. C'est une structure qui est complètement indépendante. Donc, elle s'est prononcée, elle s'est dite être en mesure d'organiser les élections. Malheureusement, nous avons tous remarqué les anomalies et les anomalies ont existé partout sur toute l'étendue du territoire national.
On va passer la parole à monsieur Youssouf Camara qui nous a rejoint. Monsieur Camara, vous avez suivi monsieur Sylla qui est de la mouvance. Vous avez déclaré clairement que vous n'allez pas reconnaître les résultats de ce vote. Est-ce que vous êtes déjà au courant de ce qui est sorti de la présidentielle d'hier?
Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste, et l'ensemble des auditeurs de la Voix de l'Amérique. Par rapport à la décision de l'opposition de ne pas reconnaître les résultats, cela est dû à un certain nombre de faits. Avant qu'on ne parle aujourd'hui de scrutin, le monde entier, les Guinéens, de l'intérieur et de l'extérieur, ont tous été témoins d'un accord qui a été concocté le 20 août dernier. Cet accord était parrainé par le système des Nations Unies, en l'occurrence de M. Ibn Sambaz. Il y avait également l'Union européenne et les grandes chancelleries, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont tous pris part à la signature de cet accord. Cet accord prévoyait trois points essentiels. Le premier point, c'était, puisque les élections communales ne pouvaient pas avoir lieu, il était question de redistribuer les délégations spéciales, les 128 délégations spéciales, sur la base des résultats obtenus pendant les élections législatives. Et la date limite de cette installation des délégations spéciales à défaut des élections communales, c'était effectivement... c'était sur la base des résultats obtenus par parti politique et la date limite était le 2 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre, cela n'a jamais été appliqué. L'accord, l'arrêté a été signé entre le 6 et le 7. Puisque nous avons affaire à un gouvernement qui n'a jamais respecté ses engagements, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été appliqué. Nous l'avions fait en connaissance de cause. Parce que nous savons que les délégations, les maires, les délégations spéciales qui sont installées ne jouent pas la neutralité. Ce sont des caciques du RPG Cancer qui sont là-bas et qui jouent, qui influencent négativement le déroulement du processus en faveur du parti au pouvoir. Cela n'a pas été obtenu. Il était question, c'est le premier point. Le second point, il était question de retravailler le fichier électoral. Parce qu'il fallait avoir un fichier propre. Mais le fichier que nous avons a tellement grossi, en moins de 2 ans, on a l'impression que la Guinée a un taux de mort de natalité plus élevé que la Chine. En 2013, on avait un fichier qui était à 4 millions 200. Aujourd'hui, en 2015, on a un fichier qui a passé de 4 millions 200 à 2 millions 400 et quelques mille. Nous nous sommes dit, mais on ne comprend pas, si la population guinéenne s'accroît de cette façon, qu'en moins de 2 ans, c'est qu'en moins de 10 ans, on risque de dépasser le Nigeria. Nous avons estimé que le fichier était plein de doublons, de triplons. Il y avait même des gens qui avaient plus de 34 électeurs avec 30 bureaux de vote différents. Il y avait des mineurs qui ont été enrôlés massivement dans les fiefs du pouvoir. On était tombé d'accord que le fichier soit assaini. Un comité technique a été mis pour cela. Au moment où le comité technique commençait le travail, M. Alpha Condé a déjà donné des injonctions à M. Bakary Fofana de la CENI d'imprimer toutes les cartes d'électeurs et ne pas attendre le comité technique qui a été installé 10 jours avant le scrutin, le jour du scrutin. On a estimé que techniquement c'était court, on voulait des élections propres. C'est bien de parler de la paix, c'est bien de parler de la stabilité. La paix, c'est pas un vrai mot, c'est un comportement. La paix ne s'obtient que dans l'accomplissement des accords qui ont été obtenus, que dans le respect des engagements. Mais cela n'est pas le cas avec M. Alpha Condé, puisque au nom de la paix, nous avons accepté cela. Le fichier n'a jamais été corrigé. on nous a fait sortir, reproduire les cartes d'électeurs où les gens se retrouvent avec 4-5 cartes d'électeurs avec plusieurs bureaux de vote. On parle de doublons, c'est lorsque la même personne a 2 ou 3 cartes, mais avec le même bureau de vote, avec la même référence. Donc nous avons compris que c'est quelque chose d'orchestré par la mouvance afin de favoriser le slogan « un coup KO » dont ils en ont toujours dit. Un parti qui n'a jamais obtenu 20% à lui seul depuis les consultations de 93. En 98, il a été incapable. En 2010, il a fallu l'appui des alliés. Aujourd'hui, il se tape à la poitrine pour dire non, je suis capable de faire le coup KO. Mais le coup KO qui se faisait ne se repose pas seulement sur le bilan, mais ça se repose essentiellement sur la mascarade montée à grande échelle. Mmh. Donc, sur cette question, ça aussi, c'est blackout, ça n'a jamais été respecté.
Merci, monsieur Camara, pour vos précisions. On va maintenant demander à notre politologue, monsieur Chérif, que dites-vous de ces deux interventions, la mouvance et l'opposition?
Oui, chaque fois qu'il y a des élections en Guinée, et généralement même en Afrique ou dans les pays pauvres, il y a toujours des anomalies. Même les grandes puissances organisent des élections avec les grandes anomalies, parfois, mais ça se règle au niveau de la justice. Et ce qui s'est passé le dimanche, le 11 octobre ici, lors du scrutin, qu'il soit l'Union européenne, la délégation de la CEDEAO, ou les représentants du système des Nations Unies qui sont venus observer le scrutin, ils ont tous dit unanimement, oui, il y a eu des irrégularités, il y a eu des omissions, il y a eu des manquements, mais pas de manquements graves pouvant quand même compromettre les résultats qui vont sortir de ces élections. Et moi, je suis d'avis avec eux, puisque chaque fois, les mêmes réclamations de cette année, nous avons le peuple de Guinée habitué à cela depuis 1993. Chaque fois qu'il y a les élections, l'opposition a toujours tendance à abandonner ou à compromettre ou à refuser de les accepter. Et en fin de compte, elle revient sur ses pas et elle accepte soit de siéger à l'Assemblée nationale ou de participer à l'inauguration du président élu. Donc, oui. Cette année, je ne vois rien d'extraordinaire à ce qui s'est passé, puisque j'ai couvert les élections ici, avec vous. Les élections sont tenues dans dans la sécurité totale, sur tout le territoire. Et donc, si globalement, le résultat cherché par le peuple de Guinée, c'est d'abord la stabilité, la paix et la sincérité du vote, puisque je n'ai pas rencontré quelqu'un, un électeur qui m'a dit qu'il a été empêché de voter. Mais les réclamations ont dit que les enveloppes sécurisées ont été détournées et d'autres anomalies signalées, et des listes d'anomalies que le peuple de Guinée est habitué à lire. Et ça, c'est un. Deuxièmement, si l'opposition se retrouve aujourd'hui pour aller contester des résultats qui ne sont même pas encore officialisés par la CENI, l'organe chargé d'organiser les élections officiellement.
Mais moi, je me dis, ils ont eu
c'est très tôt.
Ils ont eu des observateurs partout.
De contester quelque chose que vous n'avez pas encore.
Ils ont eu des observateurs partout qui ont relevé des résultats. Peut-être eux, ils ont déjà leurs résultats.
Voilà. Mais les résultats que le peuple de Guinée va tenir compte, ce sont des résultats où officiels qui seront programmés par la CENI et qui sera authentifié par la Cour constitutionnelle. Uh-huh. Donc, pourquoi ne pas attendre la CENI proclamer les résultats officiels et dire oui, voilà nos observations, il y a eu des violations dans tel point, et contester. Mais c'est trop tôt.
Oui, sur le fichier électoral.
Le résultat de quelques circonscriptions ne fait pas la somme de la totalité des bureaux de vote.
Mmh. Sur le fichier électoral, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des anomalies graves, que la liste des électeurs en 2010 était beaucoup plus importante que le nombre d'électeurs inscrits aujourd'hui?
Je dis bien à chaque fois que nous nous approchons en Guinée ou partout ailleurs à une élection, il y a des révisions qui sont organisées. Moi, j'étais à Washington. Quand la révision est venue, je suis allé, j'ai revisé ma liste, j'ai ajouté d'autres personnes qui n'étaient pas enregistrées, qui sont fait enregistrer. Et ça, la même chose s'est passée en Guinée, ce que j'aurais appris. Donc, et les opposants ou le pouvoir ou les opposants, chacun a eu la chance quand même d'aller faire la révision. Et la liste a été là. C'est des commissions techniques qui font le travail et chaque fois, il faut corriger le travail. Et je crois que ce n'est pas le RPG arc-en-ciel, l'IFDG ou l'IFR qui a fait tout le travail.
Mmh. Merci, monsieur Chérif. Nous avons un auditeur, c'est Moussa. Moussa, bonsoir.
Moussa Faro.
Oui, bonsoir, votre commentaire.
Allô, bonsoir, vous allez bien?
Oui, ça va, votre commentaire.
Oui, bon, au fait, moi, je suis à Guinée-Conakry, précisément dans la forêt, dans la préfecture de Kissidougou.
Mmh.
Et j'avoue ici que les élections se sont très bien déroulées bien, sur toute l'étendue du territoire.
Vous avez tous voté?
Oui, j'ai voté. Moi, j'ai voté. J'ai voté dans le quartier Sogbé,
uh-huh.
Dans le bureau de vote numéro 2 de Sogbé Plateau.
Oui.
Là où j'ai voté, il y avait 424 inscrits et 326 qui ont voté. Et suffrage valablement exprimé était de 316.
Et pourquoi le reste n'a pas voté?
Bon, ils n'ont pas, ceux-ci n'ont pas participé. Le reste, parce qu'il y avait 424, et au fait, il y a eu quelque chose de 50 à 60 personnes comme ça qui n'ont pas participé. On ne sait pas pourquoi. C'est des gens qui ont voyagé ou bien c'est des décès. On ne sait pas où c'est des cas de maladie, on ne sait pas.
Uh-huh.
Mais j'avoue ici réellement que sur toute l'étendue du territoire de Kissidougou, les élections se sont très bien déroulées. Et ouais. nous avons arrêté de voter là-bas hier à 20h jusqu'à 2h du matin. Moi, j'étais à la CENI au niveau de la centralisation et il n'y avait pas de problème. Et quand on est arrivé au lieu de la centralisation, il y avait les observateurs de l'Union européenne, des droits, il y avait la représentation aussi de la haute commissariat des droits de l'homme.
Uh-huh.
Et depuis hier et jusqu'à là où nous sommes comme ça, on est en train d'écouter les observateurs parce que nous, on ne peut pas apprécier notre travail. C'est ceux qui ont observé qui peuvent apprécier. Et nous constatons l'appréciation des observateurs un peu partout.
Uh-huh.
Et puis aujourd'hui, ouais, les observateurs qui sont venus ici disent que vraiment ce qu'ils ont vu, c'est la transparence et ça s'est déroulé dans la paix.
Uh-huh.
Et si l'opposition s'est dit aujourd'hui qu'il se retire du scrutin, je ne le retrouve pas.
Merci Faro pour votre commentaire. Zakaria, la presse a été déployée partout. Vous avez été dans plusieurs bureaux de vote. Qu'est-ce que vous avez vu? Zakaria? Je ne sais pas si Zakaria est toujours là. Zakaria, apparemment, il n'est pas là. On va essayer de le rejoindre. Monsieur Youssouf Camara, vous avez parlé de fraude dans votre communiqué. Sur quoi est fondée cette fraude, justement, concrètement?
Concrètement, par rapport aux fraudes que nous avons constatées, la loi est très claire que seule la CENI et ses démembrements organisent les élections, c'est-à-dire la CECI au niveau des communes urbaines, la CPI au niveau des préfectures, des CSPI au niveau des sous-préfectures. Nous avons demandé bien avant que cette élection ne commence, il y a eu un arrêté du ministre qui demandait la neutralité de l'administration. C'est que les chefs quartier, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs ne doivent pas prendre part au processus. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans tous les bureaux de vote, et à Conakry et à l'intérieur du pays? M. Alpha Condé a fortement impliqué les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et même les ministres de la République. Les procès-verbaux de Gekedou, de Kissidougou, on a même été cherchés dans les bureaux de vote de Sigirin, de Kouroussa, au niveau de Baro, avec les preuves à l'appui. Les médias étaient là avant le vote.